Bienvenue à chacune, à chacun, pour vivre la célébration de ce culte. Depuis Noël, depuis la naissance de Jésus, depuis Pâques, depuis la résurrection du Christ, l'élan de vie nous conduit à la célébration. Dieu nous veut vivants, debout, libres, pour chanter sa louange, pour balbutier la prière qui témoigne de lui, pour recevoir la grâce d'orienter nos vies selon sa parole. Que la paix de Dieu soit avec chacune et chacun, au nom du Christ vivant. Amen. Pour vivre ce culte, nous suivrons la liturgie encore au temps de l'Avent et de Noël. Donc vous avez le petit feuillet. Et pour ouvrir ce culte, nous prions, je vous invite à vous lever. Le Dieu de la révélation en Jésus le Christ d'un amour sans limite. Tu es le Dieu de la transformation du monde dans ton royaume, un royaume qui vient pour demain. Tu es le Dieu de la manifestation de la tendresse, tendresse au cœur des rudesses de nos vies. Nous t'en prions. Que ce temps de culte nous permette de vivre avec toi et d'être ainsi saisis par toi pour mieux entendre ta révélation, pour entrer dans la louange au cœur de ce monde, pour communier à la manifestation de ta tendresse. Oui, Père, sois avec nous en cette heure. Amen. Au livre du prophète Habacuc, il y a cette louange au chapitre 3. Le prophète déclare « J'exalterai dans l'Éternel, je trouverai de la joie dans le Dieu de ma liberté. Dieu l'Éternel est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur des hauts lieux. » Je vous invite à la louange en prenant au psaume 92 les strophes 1, 2 et 4. Psaume 92, 1, 2, 4.
Pensées sont profondes, plus élevées.
Nous écoutons la loi que Dieu nous donne à travers la parole du Deutéronome au chapitre 30, versets 15 et 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes, alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu ne laisses pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, vous disparaîtrez totalement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur cette terre où tu vas entrer pour en prendre possession au-delà du Jourdain. Oui, j'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. J'entends une voix nouvelle. Éternel Dieu, ta parole dit un élan de vie, un élan de bénédiction sans limite pour le monde et pour chacune de nos existences. Cette parole a pris corps dans l'enfant de Bethléem. Sa vie et sa résurrection nous disent ta joie pour chacune de nos vies. Une joie qui ouvre à l'amour et à l'éternité. Une joie qui est paix en profondeur. Une joie à poser sur toutes nos angoisses, nos craintes, nos peurs. Mais tu sais, éternel Dieu, tout ce qui en nous résiste à tes projets, tout ce qui résiste à ton élan de vie, à ta joie, à ta paix. Tout ce qui nous retient, nous enferme, nous englue à en mourir. Aussi une fois encore, ouvre nos cœurs à ta parole comme si c'était la première fois. Que nous entendions ta bénédiction plus que notre condamnation. Que nous entendions ta parole de vie plus que toutes nos tentations à la mort. Oui, libère-nous de ce péché qui nous retient et de toute tentation. Et donne-nous de vivre avec le Christ, en joie, en paix et pour l'éternité. Amen. Quand notre foi t'espère.
Quand notre voix t'espère, combien nous t'attendons, en pitié de la terre, mais t'as le plus longtemps, la création soumise. Yeah.
la parole du Dieu vivant nous appelle à être porteurs de vie. Oui, notre Dieu est le Dieu qui vient aujourd'hui comme hier. Et c'est aujourd'hui que l'Éternel nous ressuscite en venant s'installer dans nos vies, comme il est venu hier avec Jésus le Christ en Palestine. Entendons la parole. C'est aujourd'hui que nous commençons à devenir fils et filles de Dieu. Notre Dieu ne vient pas nous juger selon nos mérites, nous n'en avons aucun. Mais il vient pour que nous ayons la vie en abondance. Il nous fait grâce et nous invite à la joie reçue comme un don. Sa liberté se fait un chemin de paix pour nos vies, pour chacune de nos vies. Amen. Dieu nous a tant aimés. Avant de lire les Écritures, nous prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père, donne-nous de discerner dans les mots que nous allons entendre une parole de vie pour chacun d'entre nous. Une parole qui fasse sens sur tous les mots qui nous viennent à l'esprit. Oui, c'est ta présence au milieu de nous qui nous permet de distinguer une parole qui nous entraîne avec toi dans la confiance et dans la paix. Amen. Dans les textes proposés pour ce jour par la Fédération protestante de France, bon, parole pour tous, je n'ai retenu qu'un seul passage dans le premier livre de Samuel, le chapitre 3. Le chapitre 3 du premier livre de Samuel, on terminera même la lecture au premier verset du chapitre 4. Le petit Samuel servait le Seigneur en présence de Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. La vision n'était pas chose courante. Ce jour-là, Élie était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient à faiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il se rendit en courant près d'Élie et lui dit, « Me voici puisque tu m'as appelé. » Celui-ci répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Il alla se coucher. Le Seigneur appela Samuel encore une fois. Samuel se leva, alla trouver Élie et lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Il répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, la parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela encore Samuel pour la troisième fois. Il se leva et il alla trouver Élie. Il lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Élie comprit que le Seigneur appelait l'enfant. Élie dit à Samuel, « Retourne te coucher, et s'il t'appelle de nouveau, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, et il se tint présent, il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur dit à Samuel, « Voici que je vais accomplir une chose en Israël, à faire tinter les oreilles de quiconque en entendra parler. Ce jour-là, je réaliserai au sujet de Élie tout ce que j'ai dit au sujet de sa maison, de bout en bout. Je lui annonce que je fais justice de sa maison pour toujours à cause de sa faute. » Il savait, lui, que ses fils insultaient Dieu, et néanmoins il ne les a pas repris. Voilà pourquoi je jure à la maison de Élie, rien n'effacera jamais la faute de la maison de Élie, ni sacrifice, ni offrande. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis au matin, il ouvrit les portes de la maison du Seigneur. Samuel craignait de rapporter la vision à Élie. Élie appela Samuel et lui dit, « Samuel, mon fils ?» Il dit, « Me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole qu'il t'a adressée ? Ne me le cache pas, je t'en prie. Que Dieu te fasse ceci et encore cela, si tu me caches un seul mot de toute la parole qu'il t'a adressée. » Alors, Samuel lui rapporta toutes les paroles, sans rien cacher. Il dit, « Il est le Seigneur, qu'il fasse ce que bon lui semble. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, de Dan à Beersheba, sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur, en effet, se révélait à Samuel, à Silo, par la parole du Seigneur. Et la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Seigneur, ta parole est vérité. Donne-nous de savoir vivre selon ta vérité. Amen. Et je vous invite à reprendre la parole de Samuel en prenant le cantique 22.04, « Parle-moi Seigneur, ton serviteur écoute. »
Car enfin je le
L'Éternel parla donc avec le petit Samuel, un enfant, et lui donna une mission. Mission redoutable, une parole de jugement. C'est une page connue de nos Bibles. Nous sommes ici en face de ce que l'on peut appeler l'histoire d'une vocation. Le récit d'un appel. Samuel, petit enfant, devient prophète du Très-Haut. Cette vocation, cet appel, ce devenir prophète, est largement mis en scène dans ce texte. Et je voudrais ce matin m'arrêter sur cette mise en scène et sur les tensions qu'elle recèle, car je crois qu'il y a là un message porteur de sens pour nous, pour aujourd'hui. Alors je parle de mise en scène, il ne faudrait pas croire que la mise en scène est réservée au théâtre, au cinéma, à la fiction. Il peut y avoir de la mise en scène partout dans nos vies. Un professeur qui enseigne, il y a une mise en scène de l'éducation. Un médecin qui soigne, il y a une mise en scène de la consultation. Un culte qui est célébré, il y a une mise en scène de la liturgie. Oui, ce que nous avons vécu là, ensemble, c'est une mise en scène, la mise en scène d'une parole, une parole qui passe par l'annonce de la loi, la confession du péché, la déclaration du pardon, autant d'étapes de la mise en scène de la parole, de l'évangile, de la mise en culte, de la liturgie. Ce n'est donc pas pour parler de fiction que je parle de mise en scène. Mais quand je parle de mise en scène dans ce passage du premier livre de Samuel, c'est qu'il y a là presque une liturgie. Une liturgie qui se trame avec les différents appels du Seigneur. Vous l'avez entendu. Trois fois l'Éternel appelle Samuel, trois fois il se lève, il va vers son maître Élie, il ne comprend pas. Il faut que le prophète Élie explique à l'enfant ce qu'il se passe pour qu'enfin Samuel comprenne et qu'il réponde à l'Éternel. Quatre fois, l'enfant est réveillé avec la même formule, presque une liturgie. Et puis quand même, nous sommes dans le temple de Silo, un lieu religieux, un cadre habituel de liturgie. Samuel est au service d'Élie, le grand prêtre et le prophète. Il y a à l'époque une confusion entre les deux figures, le prêtre et le prophète, c'est le même homme à Silo. Nous sommes donc ici dans le temple, près du prophète Élie ou du prêtre Élie. Et le texte précise même d'une manière un peu surprenante que nous sommes proches de l'arche de l'Alliance. C'est surprenant comme formule, car le sens même du temple, c'est de contenir l'arche. Ainsi, la formule du verset 3, Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu, c'est une lapalissade, c'est une redondance. Que le temple contienne l'arche, c'est évident. Pour prendre un exemple contemporain, c'est comme si on parlait d'un supermarché dans lequel on peut faire ses courses. Un supermarché, c'est forcément un lieu dans lequel on peut faire ses courses. Le temple de Silo est forcément le lieu où il y a l'arche de l'Alliance. Pourquoi le signaler comme ça? Pourquoi insister? Cette insistance, c'est une manière pour l'auteur d'insister, oui, sur une idée forte. Le temple, l'arche, ce sont les signes, les symboles de la présence de Dieu au cœur du monde. Le temple comme l'arche, ce sont les lieux où le Seigneur se tient, dans le Saint des Saints. Au-dessus de l'arche de l'Alliance, Dieu est là, Dieu est présent. Et cette mise en scène de la vocation de Samuel est même beaucoup plus précise, puisque, en plus, le texte nous dit que la lampe de Dieu n'était pas éteinte. Cette lampe est encore un symbole de la présence de Dieu. C'est le symbole de la présence de Dieu auprès de son peuple depuis la sortie d'Égypte. Une présence de Dieu qui est signifiée par la lampe auprès de l'arche. Aaron et ses fils, les prêtres de génération en génération, devaient veiller à ce qu'elle brûle tout le jour, à perpétuité. Nous avons donc là une forte insistance. Le temple, l'arche, la lampe, tout nous dit que Dieu est présent. Cette mise en scène nous dit la présence de Dieu. Vous me direz, un texte biblique où il y a Dieu rendu présent, c'est quelque chose d'assez courant. Oui, mais, le texte biblique commence par nous dire que la parole de l'Éternel était rare et que la vision n'était pas chose courante. Parole et vision, ce sont les modes d'expression de Dieu, les modes de communication. Le prophète, qui est le porte-parole de Dieu, est d'abord dans la langue hébraïque le voyant. Parole et vision sont rares. Les modes de communication de Dieu sont peu fréquents. Alors même que sa présence est fortement soulignée par la mise en scène. Le Dieu qui est présent, à n'en pas douter, est manifestement un Dieu silencieux. Et c'est dans cette tension entre la mise en scène de la présence de Dieu et son silence, la parole rare, la vision peu fréquente, c'est dans ce contraste que Samuel va être réveillé par 4 fois. Les 3 premières fois, le petit Samuel va donc va se croire appelé par le prêtre, il va aller voir Élie, et la 4e fois, il va répondre à l'Éternel Dieu. Je l'ai dit, ce texte est une vocation, un appel, mais à travers cette vocation, cet appel du petit Samuel, à travers la mise en scène de cette vocation, je crois que l'élément qui se donne à connaître, c'est Dieu. Dieu se révélant, Dieu au milieu du temple, au cœur d'une certaine liturgie. Dieu se révèle. La révélation, c'est Dieu lui-même qui se montre. Dieu ne révèle pas forcément quelque chose, un message, une parole, mais il se révèle toujours lui-même. Lors d'une révélation, Dieu se communique, il se montre, il se dévoile. Une semaine après le dimanche de l'Épiphanie, je crois que ce texte fait sens. L'Épiphanie, c'est certes la venue des mages vers l'enfant Jésus, l'enfant de Bethléem, mais l'Épiphanie veut dire la manifestation, le dévoilement, une manière de révélation. Lors d'une épiphanie, lors d'une révélation, Dieu se communique, il se montre, il se dévoile. Dans l'enfant de Bethléem, pour les mages venus d'Orient, Dieu s'est montré, il s'est révélé, il s'est manifesté. Exactement comme à Silo pour Samuel, quand enfin il comprend qui l'appelle, Dieu se montre, se révèle, se manifeste. Aussi, quand même, pour reprendre le fil du texte du premier livre de Samuel, force est de constater qu'en un mot, la communication de Dieu a du mal à passer. La communication de Dieu, pour le dire avec une formule un peu d'aujourd'hui, cette communication laisse un peu à désirer. L'Éternel a visiblement du mal à se faire comprendre, à se faire connaître. Il a du mal à réveiller Samuel, il a du mal à se faire comprendre de lui. 4 fois, quand même, il faut qu'il l'appelle. Et enfin, la parole que doit dire Samuel n'est quand même pas une parole facile. C'est une parole qu'il aura du mal à dire. Pour le dire en langage d'aujourd'hui, quand Dieu réveille Samuel, on peut penser qu'il a besoin d'un conseiller en communication pour faire passer son message un peu mieux. Alors ce constat peut peut-être faire sourire, mais je crois que c'est bien le cœur du texte. Dieu a besoin d'un conseiller en communication et il se choisit un prophète, quelqu'un qui va parler, qui aura des visions. Quand bien même la parole de l'Éternel était rare et la vision peu courante en ces jours-là, il faut que Samuel se lève et qu'il parle. quand bien même cette parole sera une parole de jugement. Dans ce contexte de rareté, la présence silencieuse de Dieu dans le temple a besoin de communication, d'un conseiller en communication, d'un prophète, d'un porteur de parole, d'un témoin au cœur du peuple. Or, ce que peut nous dire ce texte à nous aujourd'hui, c'est, je crois, qu'il faut le transcrire tel quel au présent. Aujourd'hui aussi, la parole de l'Éternel est rare, la vision n'est pas chose commune. Aujourd'hui aussi, quand on entend parler de Dieu, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle ou une parole d'évangile. Aujourd'hui encore, la présence silencieuse de notre Dieu au cœur du monde a besoin de prophètes, d'hommes et de femmes qui se lèvent pour dire sa parole, de communicants, dire qui est Dieu et ce qu'il veut pour nous. Notre Dieu a encore besoin de conseillers en communication. Notre Dieu à nous, pas le Dieu du monde, pas le Dieu de la consommation qui a ses temples dans les supermarchés, pas le Dieu de la haine qui a son culte dans la rivalité et dans la concurrence, non, le Dieu de la Bible, le Dieu du petit enfant de Bethléem, le Dieu de Samuel au temple de Silo. Ce Dieu-là a besoin d'hommes et de femmes pour porter sa parole. Des conseillers en communication, des porteurs de parole, des prophètes. On a besoin de l'entendre, cette parole qui vient nous dire l'amour de Dieu pour nos vies. Une parole qui relève nos contemporains et nous-mêmes de l'angoisse du désespoir. C'est le sens du culte que nous vivons chaque dimanche. Notre Dieu a besoin de relais pour parler, pour dire. L'épiphanie du Christ, la manifestation du Christ, est en ce sens centrale pour les chrétiens. En Jésus, Dieu se manifeste comme le Dieu de vie, le Dieu pour nos vies. Cette épiphanie qu'ont vécu les mages à Bethléem, elle est comme le temple, comme l'arche de l'Alliance, comme la lampe qui brûlait à perpétuité. Ce sont des signes de la présence de Dieu au cœur du monde. La manifestation du Christ est le gage de cette présence de Dieu à nos côtés. Cette épiphanie, cette manifestation de Dieu en Jésus-Christ est l'essentiel de la bonne nouvelle dont nous témoignons au cours de notre culte chrétien. Notre Dieu n'est pas une puissance cachée, absente du monde. Il se donne à connaître dans la vie et dans la parole d'un enfant, d'un homme, du Christ Jésus. Il se donne à connaître comme cheminement à notre côté, comme une ombre bienfaisante sur chacune de nos têtes. Alors peut s'entendre une parole, même si elle est peu fréquente. Aujourd'hui encore, le Dieu présent et silencieux a besoin de femmes et d'hommes qui parlent, de prédicateurs, mais de chacun d'entre nous. Il a besoin de prédicateurs pour annoncer du haut des chairs, ou dans les temples, ou dans les églises, mais il a aussi besoin de croyants qui, dans leur vie, joignent leur voix au chant et à la confession de foi, vivent la liturgie, mais dans leur vie, sont témoins. Témoins d'une parole qui donne à vivre. L'appel de Samuel résonne alors pour toute l'Église. Et même si la parole de l'Éternel est rare, et même si la vision n'est pas chose courante, nous sommes attendus, nous sommes tous appelés. Même lorsque nous pensons pouvoir nous passer de lui, Dieu, lui, a besoin de nous. Dieu a besoin de nous pour dire et pour vivre sa parole au cœur du monde. C'est le sens d'une vie croyante, c'est le sens d'une vie communautaire en Église, c'est le sens aussi, je crois, d'un engagement d'entraide, puisque tout à l'heure aura lieu un temps fort de la vie de l'entraide de cette Église. Oui, l'Éternel a besoin de nous, de notre engagement, pour porter au cœur de ce monde sa parole de vie. À plus forte raison, quand cette parole et cette vision se font rares. L'Éternel a besoin de chacun de nous pour porter son amour et son espérance au cœur de ce monde. Nul n'a jamais vu Dieu, mais le Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a manifesté. Au Christ seul soit la gloire. Amen. Et nous pouvons prendre ensemble le cantique 47-19, tu es là au cœur de nos vies, des trois strophes. Que le quotidien s'accomplira en toute liberté. Croire en Dieu, dans cet élan de vie et de liberté, c'est ouvrir ses mains sur le monde, ouvrir son cœur aux sœurs et aux frères et entendre l'enseignement de Jésus. L'amour triomphera de tout ce qui divise. Croire en Dieu, c'est ouvrir les Écritures et nous ouvrir à la communauté de foi, au-delà des divisions, des sectarismes, des oppositions, et désigner ensemble là où s'insinuent déjà les reflets du royaume. Croire en Dieu, c'est ouvrir la porte à laquelle frappe l'Éternel pour éviter que nous nous enfermions et que nous pourrissions sur nous-mêmes. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu le Père, gloire au Saint-Esprit.
Sur la terre, mon Dieu.
Et c'est le temps de l'offrande destinée à la vie de l'Église et à sa mission dans le monde.
D'abord, merci à Benoît Degelard, qui dirige la maison des Saintes-Mains à Devecey, d'avoir présidé ce culte. Merci Benoît. Merci à toi, Eliane, pour la musique. Merci aux personnes qui ont préparé le temple pour ce dimanche. Notre pasteur, le pasteur Pierre Oversa, assure le culte à Tens. Le conseil presbytéral et l'entraide, je souhaite partager avec vous une information difficile concernant les réfugiés. Bléranda et Dardan, le jeune couple de demandeurs d'asile hébergés chez Jeanne et Douillert, ont perdu leur bébé à la naissance. Cette petite fille, puisque c'est une petite fille, qui se prénomme Renéa, sera enterrée demain après-midi à 14h au cimetière de Mars. Nous sommes tous invités à être en communion de pensée et entourer ce jeune couple, qui est bien isolé géographiquement et familialement. Donc, au cimetière de Mars, demain à 14h. Cette semaine se tiendra le deuxième partage biblique sur le thème de Jésus. Il sera assuré comme le premier par le pasteur Jean-Pierre Stenberger, qui est le bibliste régional. Ce jeudi, à 20h, au Mazet, salle de la Grange. La pasteur Esther Vivant de Marais, quant à elle, nous propose une formation à la visite à l'hôpital, dans les paroisses, dans les maisons. Et elle sera présente à Bastianou le vendredi de 14h à 16h30 pour animer cette formation. Les inscriptions sont closes, mais nous pensons que si vous souhaitez y aller, vous pouvez tranquillement y aller. Donc je répète, vendredi de 14h à 16h30, au Chambon, salle Bastienne. Voilà. Passez un bon dimanche et encore merci Benoît. Et puis voilà, vous avez été au bénéfice de ton épouse et de tes quatre petites filles.
nous nous unissons dans la prière d'intercession. Éternel Dieu, nous avons écouté ta parole, nous avons chanté ta louange. Nous voulons te dire notre reconnaissance pour l'amour dont tu nous inondes. Et dans cette reconnaissance et cet amour, nous voulons prendre le temps de te prier les uns pour les autres. Dans cette reconnaissance et cet amour, nous voulons porter devant toi toutes celles et tous ceux qui souffrent. Notamment Véranda et Dardan, ce jeune couple qui a perdu son enfant. Dans le silence de nos cœurs, nous te nommons celles et ceux qui ont besoin du soutien de la prière. Que par notre prière, nos paroles, nos engagements et au-delà, ton Église soit un espace de liberté ouverte sur l'avenir. Un lieu où s'entend et se vit la bonne nouvelle, au nom du Christ Jésus. À sa suite, nous aimons dire ensemble, notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Pour entendre la parole d'envoi et de bénédiction, je vous invite à vous lever. Nous avons l'espérance, la confiance, l'amour, la paix, la joie de Dieu. Tout nous est donné. Tout nous est donné pour nous mettre en route et marcher vers le royaume. Le Christ Jésus nous en a tracé le chemin. L'Éternel, qui fait toutes choses nouvelles, nous bénit et nous garde. Il tourne ses regards vers nous pour nous attirer à lui. Que nous soyons dans la force ou dans la faiblesse, il nous rejoint là où nous sommes pour nous dire que c'est là, avec lui, que germe le royaume. Oui, l'Éternel fait toutes choses nouvelles, il nous bénit et nous garde. Amen. Bénis Seigneur cette journée.
Bénis Seigneur.